électronique.
Je vais vous faire passer, puisque je ne prépare pas de présentation PowerPoint pour ce genre d'exercice, mais j'ai la première version manuscrite des îles sur lesquelles va porter ma présentation aujourd'hui, que je peux vous faire circuler pour vous feuilleter et voir un peu ce premier jet, l'écriture de Gabriel. Ouais. Ma présentation, l'étude génétique de cette étude qui chantait, l'exemple des îles. Vous devez être familier, beaucoup d'entre vous, avec le travail d'Hyper Roy, de mise en ligne des manuscrits. Donc c'est essentiellement je travaille donc avec Jane Abbott depuis plus d'un an à la transcription et l'étude des manuscrits de ce recueil en particulier, cette étude qui chantait. Publié en 72, écrit peu après la mort de sa petite sœur Bernadette. Donc un recueil de deuil, si on veut, en tout cas, il y a ce travail-là. 19 récits composent le recueil, qui n'a pas été, de ce que j'ai lu, n'a pas été très bien reçu à l'époque. Un critique parle de bucolisme vétérinaire à ce propos, et je trouve toujours très intéressant de lire les critiques les plus acerbes, ou en tout cas les plus moqueuses sur ce genre de travaux, pour d'autres œuvres aussi. Donc voilà, bucolisme vétérinaire, c'est vrai qu'elle donne la voix à des oiseaux, à tout un tas d'animaux qu'elle croise à la campagne. Ce qu'on trouve dans ce recueil, c'est aussi cette voix si particulière de Gabriel Roy, qui traverse tout le recueil, et une voix où se mêle, pour reprendre le titre de son roman autobiographique, qui mêle à la fois la détresse et l'enchantement d'être au monde. Et donc, et c'est d'abord en cela que les îles sont exemplaires dans ce recueil, assez représentatif des autres récits. Et donc, avant d'aborder le volet génétique, on va juste présenter, comme l'a fait Nathanaël, plutôt le récit en question, puis les quelques approches thématiques, stylistiques. Donc, pour situer un petit peu, pour situer et préciser un peu ce récit. Donc on a j'ai dégagé trois thèmes qu'on retrouve dans ce recueil et qu'on trouve dans ce récit en particulier, les îles. Donc je disais, la détresse et l'enchantement d'être au monde qu'on retrouve chez Gabriel Roy, et cette délicatesse et cet art d'effleuré qui fait sa voix et la particularité de sa voix. Et on trouve ça, un premier thème, c'est la contemplation du monde. Je vais vous lire quelques extraits. Par ces jours chauds et chantants, presque sans horizon, nous vivons bornés et bercés par le vent d'ouest, qui nous tient enfermés en des cocons de faibles bruissements d'eau, de légers frémissements de feuilles, et le malheur paraît lointain. On en vient à ne penser presque plus aux îles. Alors on se reprend à rêver devant les îles. Versus l'obsession et l'espèce de malaise que crée cette contemplation-là, une sorte de détresse. Le ciel reste sombre quelques jours et les îles inhabitées demeurent un peu de temps encore avec nous. Elles nous obsèdent. Donc on a les deux volets d'être au monde de Gabriel Roy. On a aussi la présence, deuxième thème, la présence de Berthe. Berthe qui est la confidente, l'amie, la compagne de tous les jours de ces jours de vacances d'été, de ces jours de vide. Berthe que Gabriel admire, qui en sait plus qu'elle, elle lui demande toujours beaucoup de questions, de conseils. Comment sont-elles ? Et je 100 fois demandé à Berthe. Elle me répond qu'elle n'en sait pas grand-chose. Elle croit se rappeler des récits de ce temps-là, conservés dans la famille d'une génération à l'autre. Donc Berthe qui est une présence qu'on retrouve dans beaucoup de récits du recueil. Berthe décrit le chemin à emprunter pour se rendre aux fameuses îles. Ce n'est pas facile, il faudrait aller à Québec, y prendre l'autobus pour la rive sud, faire le grand tour par terre, à Montagny, chercher quelqu'un qui pourrait nous mener aux îles en canot moteur ou en hélicoptère. Par bateau, il faudrait avoir la marée pour nous. En somme, répond Gabriel, à ces îles si proches, il faudrait Joliette et le père Marquette. D'où le troisième thème qu'on aborde avec cette mention des aventuriers qui étaient Les aventures du Mississippi, qui était Juliette et le père Marquette, qui est le thème que j'ai appelé du proche et du lointain, qu'on retrouve ici. Pendant que nous parlons, passe dans le ciel lointain des réactés. Nous ne les distinguons pas, mais apercevons la traînée qui marque leur passage. Les gens qui ne voient pas la Terre plus que nous voyons le jet sont en route pour Paris, Londres, Amsterdam. Donc les grandes villes européennes qu'elle cite, et dans les versions d'avant, on a même le Caire qui est retranché à un moment dans l'écriture. À ces grandes villes européennes s'oppose à la ligne d'après notre tranquille petit village. Nous en revenons à nos îles du côté de Montmagny, donc à côté de l'Europe. À côté de l'Europe, on a ces petites îles très proches. Et on retrouve, Nathanaël, tu avais fait mention de cette tension tradition et modernité. Non, mais ça, j'en parle plus tard, je crois. C'est juste que j'ai ajouté quelques notes, du coup. Ce thème du mal à manger, je sais. Tu as parlé de l'importance des seuils du texte. Et on voit ça aussi, je me souviens, j'en profite puisque vous êtes là, François Ricard, chez Kundera aussi, c'est très présent, l'importance d'une chipite qui déplie, et donc qui déplie le texte à venir. Et on le trouve ici aussi, dès le seuil, ce proche et ce lointain. Ce n'est pas par temps clair que l'on déchiffre le mieux le lointain. Et cette première phrase, elle est, si je ne m'abuse, présente dès le premier jet et ne va pas bouger. Elle a vraiment trouvé son seuil et mis cet accent-là sur le lointain dès la conception du texte. Et donc le paradoxe, c'est qu'on a un lointain, l'Europe, qui est proche grâce au nouveau mode de transport, et un proche, les îles, un proche qui est lointain. C'est toute une aventure d'y aller. Dans le haut ciel, c'est effacé toute trace de voyage, donc le lointain de l'Europe. Je recommence à rêver. Il faudrait pourtant aller découvrir au moins nos petites îles, Berthe. Oui, m'approuve-t-elle, il faudrait les découvrir. Seulement, nous savons qu'il n'y a qu'un moyen. Se lever au petit jour, partir en canot, parcourir à la rame 20 000 d'eau, à certains endroits dangereusement agités, accoster à la nuit noire dans une anse sauvage, faire du feu, affronter ce qu'ont affronté les hommes d'autrefois. Voilà. Et donc, là, ça rejoint un thème que tu as développé, Nathanaël, et qui est aussi cher à Gabriel Roy, cette tension entre tradition et modernité. Et donc là, encore une référence aux aventuriers d'autrefois, versus un quotidien, une époque contemporaine peut-être moins aventureuse, encore là, toute la nuance de Gabriel Roy, on la retrouve. Donc, ces îles qui seraient une aventure près de chez soi, et un émerveillement dans le quotidien versus les grandes épopées, les grandes aventures d'autrefois. Nous nous lançons l'une à l'autre un regard penaud. Nous savons bien que nous ne sommes pas de l'étoffe dont étaient faits nos ancêtres. Nous nous disons pour nous consoler que nous plaçons ailleurs notre courage, et je suppose que c'est en partie vrai. Et on arrive donc à la fin de ce court récit, et un seuil qui est encore tout à fait à l'image de la détresse et l'enchantement dont nous parlions plus tôt, et qui finit comme on l'avait souligné plus tôt aujourd'hui, une sorte d'ouverture du sens et d'infinitude du texte, et de la condition aussi de l'homme. Quel est donc sur notre cœur l'attrait des îles? Ne serait-ce pas que nous sommes des enfants perdus qui aspirent à un commun rivage? Je trouve ça très Gabriel Roy comme conclusion. Donc, tout à fait à l'image du ton du recueil, du ton général du recueil, et un ton que, et plusieurs d'entre nous ont fait ce travail de transcription et d'étude des manuscrits, qu'on, à force de recopier les textes, et parfois c'est 8, 9, 10 fois, 11 fois, même, je crois que, en tout cas pour ce récit-là, c'est Jeannot Lacorneille, il y a 11 états du texte, donc elle est recopiée 11 fois, un texte qui bouge, mais qui reste, dont l'ossature reste globalement la même. On entre vraiment dans l'intimité du style de l'écrivain, jusqu'à connaître le texte par cœur et être vraiment travaillé, angoissé par ça. Et je racontais à Jane un peu plus tôt cette année une anecdote comme quoi ça vient pas de nulle part. C'est que l'écrivain américain Hunter Thompson pour lui aussi, pour se dire je vais écrire un grand roman, recopier des romans déjà écrits. Il avait recopié The Great Gatsby, je sais, à sa machine à écrire comme ça, pour vraiment rentrer dans le travail de scripteur qui est le nôtre. Et Jacinthe Martel, vous aviez évoqué les moines, et j'avais un peu l'impression d'être très vite, quand on a commencé à travailler ensemble, Jane d'être un moine copiste à sa table de travail, à son étude et à transcrire et étudier ces textes-là. On en vient donc, je ne sais pas depuis combien de temps je
pense
à la critique génétique. Et je n'ai pas fait comme l'avait fait Nathanaël, je n'ai pas décompté à la fois présenté le fond, qui est, je crois, présent dans deux boîtes aux archives, la boîte 53, je sais qu'il y a aussi la boîte 54. Et je n'ai pas décompté les feuillets qui composent tous les manuscrits de Cet été qui chantait, mais en extrapolant et en sachant qu'il y a entre 6 et une dizaine de versions par texte, 150 pages ici, donc en extrapolant, peut-être qu'on ira vérifier, mais sur le formulaire, mais il y a peut-être pas loin de 2000 feuillets, j'imagine, pour ce recueil, donc un travail de longue haleine. Et pour ce qui est des îles, on dénombre 8 états qui se trouvent à peu près dans les moyennes du recueil. Parfois, certains textes ont 5 ou 6 états, les vaches d'Aimée par exemple 6 états, d'autres un peu plus, 10 ou 11, ce qui est le cas de Jeannot Lacorneille. Mais donc pour les îles, on a 8 états du texte, 2 états manuscrits, dans les cahiers spirales 2 et 11, 3 états dactylographiés, un bon à tirer, une mise en page et l'édition publiée. Je ne sais pas si l'édition change entre 72 et celle du centenaire, le texte bouge un petit peu.
J'ai eu dès 73 déjà, il y a eu une nouvelle édition dans laquelle elle avait modifié les choses.
Et puis la troisième édition de 78, c'est ça,
79, je pense, 79. Elle n'avait pas changé grand-chose en 79,
c'est en 73.
Et donc, dès le premier jet que vous avez pu consulter, on s'aperçoit d'une écriture très, très linéaire, avec des bifures bien sûr et des reformulations au fil de la plume, mais un paragraphe biffé en page 8 et repris en dessous, tel quel, et donc quelques tournures de phrases qui sont biffées, réécrites, vocabulaire, mais somme toute un texte assez déroulé déjà. Et Comme si Gabrielle Roy avait des notes préparatoires quelque part, au moins des notes mentales, qu'elle avait déjà tout à fait travaillé ce vers quoi elle s'en allait, et que la mise en mots était somme toute, comparée à d'autres brouillons, assez linéaire, je trouve. Et l'état 2, qui est aussi un état à l'état manuscrit, c'est le même travail de bifures, de tournures de phrases au fil de l'écriture, et le seul changement significatif, alors, et il l'est pour le texte en entier, c'est l'ajout de la conclusion telle qu'elle apparaît dans l'état final, ne serait-ce pas que nous sommes des enfants perdus qui aspirent à un commun rivage, qui n'est pas présent, ne paraît pas dans l'état 1, et donc l'état 1, c'est, je crois, juste le paragraphe d'avant, donc ce qui sera l'avant-dernier paragraphe, c'est celui qui conclut cet état numéro 1. Et donc, le travail de signification du seuil, effectivement, est fait au deuxième état, donc à la réécriture manuscrite, d'ouverture du sens et du texte, donc dans le deuxième état manuscrit. Et à partir de l'état 3, qui est la première version dactylographiée, le texte est de plus en plus stable. Là, vraiment, ça s'apparente presque à du toilettage. Alors évidemment, c'est le travail est plus compliqué que ça, et Dieu sait qu'elle rumine ces phrases, mais les expressions, c'est vraiment de l'ordre de la tournure et d'harmoniser les expressions. Nous apercevons devient on aperçoit, à peine devient presque, apercevoir devient revoir, mais sinon le texte bouge assez peu. À l'état numéro 4, qui est la deuxième version dactylographiée, on va seulement par rapport à l'état numéro 3, donc la version dactylographiée prend seulement en compte les modifications de l'état numéro 3, qui sont très peu nombreuses. Et sur l'état numéro 4, il y a 4 modifications apportées au texte sur les 9 pages, je crois, qui composent cet état. Et donc, pour celui qui transcrit, évidemment, il y a de la joie dans tout un tas de problèmes, dire comment, s'il y a beaucoup de notes, comment est-ce qu'on organise tout ça, dans quel ordre est-ce qu'on met ça, ce qui est biffé, surbiffé, réécrit au-dessus. Mais quand il y a 4 modifications apportées au texte, on se contente de transcrire, justement, et de passer à l'étape suivante, ce qui constitue un bonheur aussi quand on travaille en continu. Un constat assez similaire pour l'état numéro 5, troisième version dactylographiée. Et au bon à tirer, on constate un travail sur la ponctuation, quelques tournures de phrases encore, d'harmonisation du texte. Il devait coucher devient il couchait. Les hommes devaient avoir devient les hommes avaient. Mais c'est vraiment, encore une fois, très léger. Et la mise en page, l'état numéro 7 de mise en page porte bien son nom. Quelques ajouts et retranchements de virgules. Un travail sur la ponctuation, un travail sur la mise en page, qui est vraiment un travail d'édition plutôt, et de mise en page du texte, notamment sur les retours à la ligne, et des copies d'éditeurs qui ont des erreurs de transcription par rapport au bon à tirer. Mais donc, encore une fois, là, le travail sur le texte est déjà fait. Déjà fait au bon à tirer, le texte ne bouge presque plus, seulement quelques virgules. Donc, dès la première version, ce qui est assez remarquable, c'est que le texte est stable dans ses grandes lignes, et sera de plus en plus stable, si bien que dès la première version dactylographiée, on est en présence à, encore une fois, quelques détails près de ponctuation, d'harmonisation de tournure de phrase, et verbal, à quelques détails près, on est très proche de la version finale. Et moi, je me suis parfois dit, et certains exemples sont édifiants, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce que Gabi a autant de versions de son texte, mais parfois d'un état à l'autre, c'est exactement le même texte, dactylographe, surtout dans les dactylographes, en fait, au point où on se dit, mais est-ce que sa secrétaire, je crois qu'il tapait, a dû retaper le même texte un nombre de fois, elle aussi, a dû vraiment rentrer dans toute l'intimité de Gabriel Roy. Et donc ça m'étonnait de constater, pour le travail d'autres personnes ici, que vos constats que les textes bougeaient beaucoup, justement, alors que c'est pas l'impression de mon travail sur cette été qui chantait. Alors je sais pas si j'aimerais confronter donc d'autres... À l'exception près, et j'y viens, il y a des textes bien sûr qui bougent plus que les îles dans cette été qui chantait, notamment Jeanne la Corneille, où elle biffe 2-3 pages à la 8e version sur 11, qu'elle réécrit dans le même état. Et donc, et pour revenir à la question des feuillets, je crois que cette version en particulier de Jeanne, il y a 31 feuillets. Alors c'est tout un plaisir de s'y retrouver là-dedans. Donc, et le texte est présent 2,5 fois, je pense, dans ces 31 feuillets. Donc ça dépend des textes, mais dans l'ensemble de ce que j'ai pu voir, les textes de cet été qui chantait sont, dès la première version, très, très linéaires dans l'écriture et bougent très peu dans l'architecture. Et donc ce qui est surprenant peut-être, c'est que ça dénote par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur le fait qu'elle pouvait effectivement, sur certaines clôtures, sur certaines phrases capitales du texte, revenir. Et on a de fait 7-8 versions différentes d'un segment qui constitue en fait des variantes du même extrait. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien comparer, et on aura l'occasion de le faire avec... c'est Anne-Marie, c'est ça ? Et tu travailles sur la détresse et l'enchantement, donc on aura l'occasion de comparer avec des travaux plus longs comme ces grands romans, parce que sur les récits, c'est peut-être compréhensible sur des récits de 3-4 pages, les plus longs c'est une dizaine de pages dans cette édition, que ce soit déjà très travaillé dans sa tête et qu'elle arrive à dérouler son écriture. Et j'imagine que ce n'est pas du tout le cas de ces grands romans où c'est des travaux de longue haleine et donc beaucoup plus segmenté comme écriture. Donc voilà, conclusion. Merci.